Et Laurentienne.
Prochain sujet, on parle de ce qui se passe entre Israël puis le Hamas. C'est une guerre sans merci que se font ces deux armées-là. Et ça se passe beaucoup en Palestine, principalement dans la bande de Gaza ou dans la ville de Gaza. Je sais pas si tu as vu des images là, de la...
C'est terrible.
De la ville de Gaza, mais c'est atroce.
C'est rasé.
Puis de voir qu'il y a des femmes et des enfants qui habitent là-dedans au travers des gens du Hamas.
La famine, les gens se battent pour un plat de soupe.
Ouais, puis moi je suis un gars que j'aime bien, qui s'appelle François Audet, qui est professeur à l'UQAM, mais qui est directeur fondateur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. Il va t'expliquer comment ça se passe, puis qu'est-ce qui s'est passé. C'est juste hallucinant la catastrophe humanitaire qu'on vit à Gaza actuellement, et on a le plaisir de l'avoir au bout du fil pour quelques minutes. Monsieur François Audet, comment allez-vous?
Oui, bonjour, ça va bien vous-même?
Très content de vous jaser. J'imagine que vous avez le même réflexe que nous. Quand vous regardez les images de la Palestine, principalement de la bande de Gaza, c'est une catastrophe, là.
Oui, c'est une catastrophe qui est évidemment pas naturelle. C'est une crise qui est causée par l'homme. Là, il n'y a pas plus meilleure définition que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. On est face, évidemment, à une situation qui dure depuis des années, des décennies, certains diront des siècles. Évidemment, plus récemment, on le sait, puis je veux pas revenir sur tout ça, il y a eu les attaques du 7 octobre, il y a 2 ans, du Hamas, hein, des attaques terribles. Il y a eu donc une prise d'otage qui a été faite par le Hamas. Hamas qui est considéré, évidemment, comme un groupe terroriste. Ils sont revenus dans la bande de Gaza avec 200-300 otages. Cet événement important et gravissime-là, Israël a décidé d'envahir la bande de Gaza. Et on le rappelle, là, on le voit dans les images, c'est gros comme l'île de Montréal, mais contrairement à l'île de Montréal, il n'y a pas de pont. C'est complètement emmuré du côté du territoire israélien. De l'autre côté, c'est la mer. Donc, la population, plus de 2,2 millions de personnes, est emmurée, ne peut pas sortir. Et ce qui s'avérait au départ comme étant une stratégie militaire pour démanteler et éliminer le Hamas, auquel il y avait un consensus, ben Israël va beaucoup plus loin, beaucoup trop loin, et on voit dans son comportement depuis le départ, mais surtout depuis la dernière année, mais on le voit dans les derniers jours avec l'attaque sur la ville de Gaza, une intervention qui fait fi des civils et qui aura tué pour l'instant, de ce qu'on en sait, entre 60 et 70 000 personnes, et qui a fait en sorte d'ailleurs que les Nations Unies, des groupes d'experts indépendants, des juristes, des enquêteurs, ont convenu qu'il y avait vraiment un acte de génocidaire. C'est-à-dire qu'on peut accuser Israël maintenant de vouloir éliminer les Palestiniens, la bande de Gaza, et évidemment la remplacer, puis on l'entend politiquement, je termine là-dessus, la remplacer par une espèce de projet récréotouristique que le président Trump là, voudrait prendre sous son aile avec des investissements majeurs. Alors voilà un peu, en 2 minutes, le scénario actuel.
Ouais. L'armée israélienne a annoncé une offensive terrestre et on a dit aux habitants de Gaza, vous avez un nouvel axe pour accélérer la fuite. Oui. Est-ce que c'est bien déterminé ce nouvel axe-là? Est-ce que tous les habitants ont cette information-là pour pouvoir se sauver? Puis est-ce que bel et bien, il y a un axe pour se sauver? Et où se ramassent ces gens-là?
Mais là, on n'est pas en train de déplacer là des gens de Beauport à l'ancienne Lorette en voiture tranquille. Là, on parle d'une région qui est bombardée, comme vous l'avez dit, depuis 2 ans, d'une famine qui a été déclarée le plus haut niveau de famine, là, niveau 5. Là, ça veut dire que les gens là, n'ont plus rien à manger, puis ça crée le chaos, mais ils n'ont plus même l'énergie pour se déplacer, n'ont pas les ressources pour le faire non plus, et se déplacer pour aller où, sachant que toute la bande de Gaza est détruite. Et la plupart des grandes régions sont de toute façon en situation de conflit armé très intense. Alors, il y a derrière ça peut-être, hein, puis j'ai même une hypothèse, que Israël essaie effectivement de donner un chemin de fuite de la population de Gaza, mais le contexte fait que la grande majorité de ce qu'on voit et de ce qu'on a comme documents et d'enquêtes sont incapables de le faire, n'ont pas les ressources pour le faire, n'ont pas de voiture de toute façon. Ça serait, tu sais, il faut qu'ils partent à pied, mais là on parle de gens qui sont affamés, blessés, des enfants, des personnes âgées, etc. Et ce qui est plutôt, me semble, l'autre hypothèse, c'est que Israël, à travers ce geste-là, cette politique de communication, ben, veut montrer qu'ils font quelque chose. Donc, qu'ils libèrent ou garantissent, je le mets en parenthèse, là, un corridor. C'est quoi? Ben, essentiellement, c'est qu'une certaine route qui a été identifiée et on dit à la population, si vous passez par là pour fuir, on n'attaquera pas. Alors que, dans le passé, c'est pas la première fois qu'il y a des corridors de cette nature-là dans la bande de Gaza depuis 2 ans. Il y a eu plusieurs incidents importants et très graves où Israël a attaqué le convoi civil en prétextant qu'il y avait peut-être là des membres du Hamas qui se cachaient ou etc., etc. Alors, c'est extrêmement complexe. Il y a une guerre de communication. Il faut faire attention. Il faut faire attention des deux côtés. Hein. Il faut être très prudent. Même dans les grands médias, on voit beaucoup de prudence. Moi-même, là, comme expert, je suis sur ce dossier-là depuis très longtemps, j'y vais avec prudence, mais j'essaie objectivement, et pour vos auditeurs, de parler d'une situation complexe. Vous comme moi, et sûrement le public, on a tous plus un côté ou de l'autre, mais au bout du compte, là, c'est des civils qui souffrent, et c'est des hommes qui se tuent, et c'est souvent des femmes et des enfants, les personnes âgées qui sont les plus vulnérables, qui vont mourir. C'est ça la tragédie.
Monsieur Audet, comment on explique l'inaction des autres pays du Moyen-Orient? On vit présentement une catastrophe, un génocide, et je vois pas l'Arabie Saoudite, l'Égypte ou d'autres pays là, bouger là, justement pour que le carnage cesse.
Ah, c'est une excellente question et c'est une ça mériterait là une longue réponse. On n'a probablement pas le temps, mais je résumerai simplement que c'est de la géopolitique comme il y en a partout et on peut effectivement pointer du doigt et critiquer le manque de solidarité des pays arabes, des pays musulmans au pourtour. Il y a évidemment des critiques qui sont faites. D'ailleurs, Israël a attaqué à peu près tout le monde autour, le Liban, le Yémen,
le Qatar.
Il s'est mis à défaut, même militairement, là, des pays musulmans et qui sont normalement du côté de la Palestine. Mais évidemment, derrière Israël, il y a les Américains. Et les Américains donnent le soutien unilatéral à Israël pour faire ce qu'ils veulent à Gaza. Et derrière ça aussi, ben, on le sait, puis on le vit chez nous au Canada, il y a une guerre tarifaire importante et il y a un jeu de négociation incroyable d'achat de pétrole derrière ça, d'investissement par-ci et par-là. Il est en coulisses, certaines choses qu'on ne connaît pas, mais on comprend que le comportement final des États arabes autour sont clairement liés à des négociations avec les Américains autour de ça également pour ne pas attaquer Israël, pour ne pas riposter, ce qui fait que politiquement, on entend du bout des lèvres des critiques, mais que militairement, il n'y a pas rien qui va se faire de ce côté-là, malheureusement. Il y a évidemment l'Iran qui le fait, mais bon, l'Iran, c'est le mouton noir du coin. C'est un État qu'on pourrait qualifier de rogue, qui a soutenu le Hamas, qui a soutenu le Hezbollah, qui soutient évidemment des mouvements terroristes. Et je pense qu'en termes de légitimité, je pense pas que l'Iran est à la bonne place pour négocier quoi que ce soit, car c'est pas mal limite tout le monde, même des pays arabes dans la région.
François Audet, vous êtes directeur fondateur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. Est-ce que vous voyez une sortie de crise?
Ben, ultimement, et là, combien de temps ça va prendre, même les dirigeants de l'armée israélienne le mentionnaient que l'attaque sur la ville de Gaza, là, faut imaginer le centre-ville de Québec, là, pourrait prendre plusieurs mois. Alors, et clairement, avec le soutien des États-Unis, Israël ne reculera pas tant qu'ils n'auront pas soit éliminé le Hamas et ou atteint l'objectif de récupérer là les otages ou les dépouilles des otages parce que plusieurs seraient morts. Donc, ça va prendre quand même un certain temps. Et malheureusement, en attaquant le Qatar, hein, quand ils ont attaqué le Qatar, en fait, ils ont attaqué le bureau politique du Hamas qui est au Qatar, qui est un bureau qui était légitimement accepté par les États-Unis et Israël par ailleurs. Alors, en attaquant les négociateurs, bien évidemment, ça met les négociations en bas de l'échelle. Là, donc, malheureusement, sur le court terme, on voit pas, il y aura pas de sortie de conflit. Ça va prendre encore quelques mois, malheureusement, de souffrance, de famine. Et il faut continuer à être solidaire avec ce qui se passe là-bas, tant par rapport à, évidemment, oui, les familles des otages israéliens, mais le peuple palestinien, les gens de Gaza souffrent de faim et Israël ne fait rien pour empêcher cette souffrance-là. Et ça, je crois qu'il faut le mentionner clairement. Et c'est ça qu'on voit un petit peu partout de par le monde actuellement. Même le Canada, le Québec aussi ont commencé à critiquer plus vertement le comportement d'Israël. Et ça, je pense que c'est un élément important pour s'assurer d'être du bon côté de l'histoire, parce que dans 20, 30, 40 ans, on va nous pointer du doigt par rapport à ce qu'on a fait ou ce qu'on n'aura pas fait. Comme on pense à ce qui s'est passé au Rwanda, par exemple, où on n'a rien fait. Il y a eu un massacre. Le général Dallaire était lui-même prisonnier de politiquement, là, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas réagir, il ne pouvait pas intervenir. Alors, comment on va nous juger dans 20 ou 30 ans? Ça va être en fonction de nos prises de position maintenant.
François Audet, vous êtes un vulgarisateur exceptionnel. C'est toujours un plaisir de vous entendre.
Merci de l'invitation. Au revoir.
Merci, au revoir. François Audet, qui est directeur fondateur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire. C'est un professeur à l'UQAM. C'est un gars que j'adore écouter. C'est comme un genre un résumé pour les nuls.
Exactement.
Absolument tout en très peu de temps. Puis ouais. C'est tout le temps le fun de l'entendre. Je l'entendais, je pense que c'est avant-hier, il était à LCN.
Oui, à LCN, exactement.
Puis, on a besoin d'entendre des gens comme ça qui sont un peu plus au centre, qui sont pas dans les extrêmes, qui te racontent exactement ce qui se passe sans exagérer.
Exactement.
Les faits, puis juste les faits, c'est ça qui compte.
Ce qui est très questionnant, c'est que le combat d'Israël contre le Hamas est très valable parce que c'est anéantir un groupe terroriste. Mais là, c'est de la façon que c'est fait là, de mettre à mal une population de cette,
cette
ampleur-là.
J'aurais été un peu plus ouvert à un long combat entre Israël et le Hamas à partir du moment où on y aurait été avec des troupes au sol uniquement pour essayer d'identifier les menaces et les éradiquer. Là, le problème, c'est qu'on a bombardé, ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le conflit. On parle de quoi? 70 000 personnes?
Ouais.
On parle de gens qui n'ont rien à voir avec le conflit, qui sont décédés parce qu'Israël a décidé de bombarder avec des armes de destruction qui venaient du ciel. Si on avait dit hey, « on y va au sol », puis on va aller chercher les généraux du Hamas, puis on va aller chercher les combattants, ils auraient eu pareil. Il y aurait eu beaucoup moins de dommages collatéraux.
Mais tu sais pourquoi on ne l'a pas fait? C'est parce qu'en attaquant au sol, en premier lieu, ça c'est Eric Ouellet, là, notre expert en conflit militaire, qui nous l'a expliqué, c'était trop dangereux de se faire prendre dans des guérillas urbaines. Donc c'est pour ça qu'on a saccagé les villes par la voie des airs pour après ça attaquer de façon terrestre. Mais évidemment, avec comme conséquence que c'est 70 000 civils.
Exact. J'ai entendu cet argument-là, puis c'était un excellent intervenant que tu avais eu à cette époque-là, mais je te pose la question à toi.
Ouais.
T'es un militaire. Tu sais que ta job, c'est un danger là, constant. Tu dois te watcher. Est-ce que tu choisis d'y aller directement par la terre ou tu dis « Oh, regarde, m'a pesé sur le piton, m'a envoyé des bombes, m'a peut-être tué des femmes et des enfants » mais au moins, je vais revenir, moi, à la maison.
Ah, impossible que je prenne la décision de peser sur le bouton de la bombe.
C'est exactement la réflexion que j'ai eue dans mon char quand j'entendais M. Audet mentionner ça. T'sais. Je comprends les Israéliens puis la Palestine, c'est pas, ça s'est jamais bien entendu.
Mais non, jamais. Là.
C'est pas juste 5 ans d'histoire où ils s'entendaient pas. Là. C'est
des centaines, voire des milliers d'années. Là.
Exactement. Puis il y a des territoires qui sont qui touchent beaucoup la religion.
Oui, notamment Jérusalem.
Exact. Donc, tu sais, j'aurais apprécié, moi, une attaque au sol, même si, oui, c'est dangereux pour les soldats israéliens, mais à choisir entre les deux, entre tuer 60 000 innocents... Mm-hmm.
Mais une des problématiques aussi, puis on revient à la politique américaine, c'est le fait qu'on est appuyé, malgré ces massacres-là, de façon unilatérale par les États-Unis. Donc, Israël se dédouane de toute responsabilité. Encore, Marco Rubio est encore en Israël dimanche.
Oui.
Pour venir justement donner son appui moral à ce qu'Israël fait, ce qui fait pas de sens pour moi.
Donc, l'entrevue avec François Audet, qui est directeur fondateur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire, sera disponible sur notre site internet, blvd.fm. Vous pouvez télécharger aussi l'application Boulevard. Les podcasts sont là, les entrevues sont là aussi. La web radio pour le bureau, c'est assez facile aussi, blvd.fm. Et si vous avez un Google Home ou encore Alexa, eh bien, dites BLVD 102.1, on revient. Max?
Yes, d'après moi, il se passe de quoi? Ça a 20 ouest un peu passé, route Lagueux, parce qu'il y a un solide ralentissement qui est bien inhabituel dans ce secteur-là. Sinon, pour l'accès au pont Pierre-Laporte, direction nord, encore jamais, là, 73, ça remonte jusqu'à Beaulieu. Par la 20 ouest, ça va un petit peu mieux, mais quand même quelques problèmes. La 40 est, là, et Charest dans le coin de Robert Bourassa, ralentissement qui est toujours considérable. Capitale, ça va mieux. Robert Bourassa sud vers le boulevard Le Bourgneuf, c'est au rouge. Et vous rappelez, là, un accident avec blessé ce matin sur le boulevard Pierre-Bertrand. Vers 6h, les policiers du SPVQ qui ont été appelés à intervenir. Une collision frontale impliquant un véhicule et un camion lourd. Le conducteur du véhicule, un homme de 47 ans, qui a été transporté vers un centre hospitalier pour traiter des blessures sérieuses. Le conducteur du camion, un homme de 73 ans, qui a été évalué pour un choc nerveux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le boulevard Pierre-Bertrand est fermé actuellement, jusqu'à preuve du contraire, toujours là, dans les deux directions. Plusieurs policiers qui sont là pour assurer la fluidité du trafic, mais on enquête pour en savoir plus sur sur l'événement.
Tu des gars de la ville qui nous écoutent, je veux le savoir, 418-971-1021, les cols bleus, pourquoi les cônes et les clôtures du défi cycliste sont encore dans les rues
ouais,
de Québec?
Oui, c'est un auditeur qui nous posait la question.
Dans le petit Champlain, je les ai vus moi aussi, puis je me suis posé la même question. Donc, s'il y a des cols bleus qui sont à l'écoute, pourquoi c'est toujours pas enlevé? Y a-t-il un autre défi en fin de semaine à Québec qui va faire en sorte qu'on va reposer les mêmes
cônes? Mais c'est sur Grande Allée. Il y a le défi iRock. Je participe avec Val dans la catégorie mix.
Sur Grande Allée, c'est correct? Mais ouais. Est-ce qu'ils vont descendre en bas dans le petit Champlain?
Le défi iRock reste sur Grande Allée. Il ne descend pas dans le petit Champlain.
Donc voilà, je veux savoir pourquoi c'est pas encore ramassé. 418-971-101 par texto, si c'est possible de le faire.
Marceau le matin.